Les Signes Sauvages, une émission proposée, préparée, présentée par Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous. Les Signes Sauvages, Quesaco. Eh bien, c'est assez simple, ma foi. Il s'agit du titre d'un livre de Kenneth White, traduit par son épouse Marie-Claude White, paru aux éditions Le Mot et le Reste en 2013, mais dont la première édition date de 1990, et c'était chez Grasset Fasquelle. Pourquoi Les Signes Sauvages ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai décidé de vous lire in extenso ce récit de voyage de Kenneth White au Japon. Point de départ, Tokyo, la ville tentaculaire. Après quoi, l'auteur part pour le Nord. Il est accompagné de l'ombre tutélaire de Basho, grand poète japonais du XVIIe siècle, initié au Zen, qui fit aussi route vers le Nord. C'est ce grand voyage de Kenneth White vers le Nord que je vous offre tout au long de cet été. Deuxième étape sur la route du nord du Japon, Kenneth White est en compagnie de son ami Kenji et il chemine à travers Tokyo. Les voici dans l'artère principale du quartier d'Akihabara à Denkigai. Si on la surnomme la rue électrique, c'est parce que c'est un paradis électronique ou un enfer, cela dépend du point de vue. On trouve là des magasins à plusieurs étages où l'on vend de tout, depuis les réfrigérateurs ou les climatiseurs au rez-de-chaussée jusqu'aux micro-ordinateurs au dernier étage, en passant par les écrans bleus vidéo, les platines en acier luisante et les grosses enceintes noires. Mais ce n'est pas tout. Derrière ces mammouths, il y a les innombrables boutiques de bric-à-brac, Janku, Mono, où sont entassés pêle-mêle tous les gadgets électroniques imaginables, avec en plus quelques-uns qui, si vous êtes comme moi, dépassent votre imagination. Tout le quartier est rempli d'un bruit assourdissant et de néons multicolores qui clignotent selon tous les rythmes possibles. « C'est le monde de demain, » dit Kenji. « Fuyons tant que nous le pouvons !» Étant plutôt du genre archaïque, je pensais trouver de quoi mieux satisfaire mes besoins de sensations et d'images à Tsukiji, le marché aux poissons. Un grouillement de vie marine là-bas. Anguilles qui ondulent, crabes qui tâtonnent, toutes sortes de pieuvres qui se tordent, mais les thons surtout. Ces corps lisses aux belles courbes, encore couverts de givre, fumant dans le soleil du petit matin. La vie d'ailleurs, les gros, pêchés dans le Pacifique Sud, les plus petits au large de Cape Town, tous ces corps gras, souples, glissants, luisants, naguère rapides nageurs, allongés là sur le quai, leurs orbites aveugles bouchées avec de la glace grise, et les acheteurs éventuels qui font une petite entaille dans leur chair, l'examinent attentivement à la lumière d'une torche électrique, pendant que le crieur, petit bonhomme râblé, une casquette de baseball sur le chef, est sur le point de se faire éclater une veine en tapant du pied sur son estrade comme un gros bébé en colère, pendant qu'il fait monter à toute vitesse les enchères. Celle-ci terminée, les poissons sont traînés jusqu'aux étals où le découpage commence, avec d'énormes haches, avec de longs couteaux, avec des scies électriques, afin que tout soit prêt pour les restaurateurs de Tokyo qui feront bientôt leur tournée. Seules, les têtes des poissons sont laissées sur le quai, éparpillées au milieu des boîtes en polystyrène. ces têtes de thon. On dirait qu'elles aimeraient prononcer un dernier mot. Ces têtes de thon, on dirait qu'elles aimeraient prononcer un dernier mot. Une grande partie des crabes de Tsukuji doit être acheminée vers le célèbre restaurant de crabes de Shinjuku qui exhibe au-dessus de sa porte un énorme crabe inquiétant agité de mouvements mécaniques. Chaque fois que je pense à Shinjuku, je vois ce crabe. Cité Cancer. Shinjuku, un soir d'octobre. Grosse lune d'automne, le crabe qui bouge lentement, les haut-parleurs qui vomissent du rock'n'roll, les boules d'acier qui cascadent dans les salles de pachinko et un chapelet de salons d'amour qui exposent leurs photos d'étudiantes nues. On regarde, on touche, on donne un rendez-vous. Filles à gogo, Yaru Hippai. Il ne reste rien du charme du vieux Tokyo, dit le jeune poète. Les maisons de thé ont disparu, les vieux canaux ont cédé la place aux autoroutes. Mais même ici, même dans les ambiances les plus tapageuses, subsistent encore quelques vestiges. Dans certains de ces salons d'amour, par exemple, aussitôt que vous avez payé le droit d'entrée, vous êtes introduit dans une pièce où les filles sont alignées par 5 ou 6, nues, nues comme des vers, à l'exception d'un petit tablier de soie. Or, dans le vieux Tokyo, il y avait un genre de prostituées appelées Kekoro, on les trouvait autour de la colline d'Ueno, et la particularité de la Kekoro était son tablier. De sorte qu'on la désignait souvent sous le nom de Yamashita no Madare, le tablier dessous la colline. Les voilà donc, les étudiantes nues à l'université de la chair dans la nuit de la cité Cancer. L'une d'elles, comme un héros parmi les canards. Elle a des seins petits, soyeux, straight, dit-elle avec regret, mais je lui dis qu'ils sont jolis. Revenus dans la rue, écartons-nous des lumières et du bruit, des salons d'amour et des cafés sans culottes et explorons les secteurs plus tranquilles, les venelles bordées de petits bouges obscurs, Space Dane, Cherry Island, Heaven and Moon, Silk Road, petits bouges et petits bars, des troquets tranquilles où l'on boit de la bière, du saké, du whisky, et où on mange, par exemple, des tentacules de pieuvre, du pâté de crabe, des œufs de saumon, des pommes de terre sauvages râpées, ou le plat tsukimi, qui signifie « contempler la lune ». Où on écoute des chansons, chansons tristes, nostalgiques, suggestives, pour faire marcher l'imagination, pour flotter dans un peu de vie profonde, pour sombrer dans le passé, ou peut-être simplement dans l'oubli. Il y a des rues ici qui s'appellent précisément Omoide Dori, ruelle de la mémoire. Grosse lune, lune jaune, vue à travers la fumée du poisson en train de frire. Mama Biru, crie l'homme d'affaires d'âge mûr, sa figure ronde, trempée de sueur. Et encore une pour le Geijin, pour l'étranger. L'étranger, c'est moi. Et la nuit continue. Nous terminons dans le bar de la pieuvre, un petit nomiya au milieu de nulle part. Sur le mur, une pieuvre et un singe en train de faire l'amour. C'est un bar où le patron écrit des haïkus. Son nom de poète, celui qui se fait marcher dessus tout le temps mais qui tient le coup. Il récite l'un de ses haïkus où il est question d'ombre sur un mur de Kyoto et un autre qui parle de poissons en train de frire dans une poêle et des rides sur le visage de sa mère. L'aube arrive avec un goût de saké froid. Le monde des livres. Jimboku doit être l'un des marchés du livre les plus prodigieux du monde. Des rues et des rues bordées de librairies, toutes pleines à craquer de livres, de livres, de livres, du plancher au plafond. Kenji me dit que l'un des premiers livres occidentaux à avoir été traduits en japonais était Robinson Crusoe, sous le titre « L'histoire d'un voyage écrite par un Anglais ». Je n'ai pas trouvé de première édition japonaise de Robinson Crusoe au cours de mes virées à Jimboku, mais j'ai découvert d'autres livres d'un intérêt pour moi égal, sinon supérieur. L'essai sur les mers nordiques de Sakakura Genro, Reisnar Japan de Devries, Cartas do Japão de Venceslao de Moraes, Personal Narrative of a Voyage to Japan, Kamchatka, Siberia, Tartary and various parts of the coast of China par le lieutenant de marine Tronson et le voyage de la Pérouse. Leur tête et toi nus et chez deux ou trois seulement, entourés d'un bandeau de peau d'ours, toute sa voix des bottes de peau de loup marin avec un pied à la chinoise très artistement travaillé, les manières de ses habitants et toits graves, nobles et très effectueuses, les cabanes de ses insulaires sont bâties avec intelligence, toutes les précautions y sont prises contre le froid, elles sont en bois revêtues d'écorce de bouleau. Ça, c'est la Pérouse, parlant des Ainu qu'il avait rencontrés au Hokkaido. Il y avait donc ses livres de voyage et des cartes, des centaines de cartes originales ou en reproduction, la carte française des terres arctiques, où l'on trouve le Hokkaido sous le nom de « terre de Yesso », c'est l'expression qu'utilisa la Pérouse, la carte japonaise « Honshōzukan Komoku » tracée par Ishikawa Ryusen, sur laquelle on voit vers le nord un groupe d'îles appelé « Enzogashima ». La perfecte carte van de « Gelegendate des Lands van Japan », excusez du peu, de Francis Caron, qui présente le Hokkaido non pas comme une île, mais comme un passage continu entre le Japon et la Tartarie. Et de vieux livres japonais, aux pages douces, au toucher comme des toiles d'araignée, montrant des steamers noirs dans des ports aux couleurs du couchant, ou des maisons de thé sous la lune, ou une vieille rue de ville, et des estampes, avec des bleus, des roses, des rouges sombres et tous les tons de noir. Noir antique, noir frais, noir brillant, noir mat, le noir de la lumière et le noir de l'ombre, l'une de ces estampes m'a plu tout particulièrement, Anglais faisant la danse de Yokohama. Elle représente un Anglais avec un très long nez, exécutant une gigue endiablée devant une geisha qui a un shamisen sur les genoux, et une expression perplexe sur le visage. C'est une de ces célèbres estampes de Yokohama, produite peu après l'arrivée dans la baie de Tokyo des bateaux du Commodore Perry, une arrivée qui signifiait la réouverture du Japon au monde après plus de deux siècles d'isolement presque total. C'est à cause de cette estampe, Anglais faisant la danse de Yokohama, mais pas seulement à cause d'elle, car Yokohama fait partie de ma mythologie personnelle depuis des années. À l'âge de 15 ans, dans mon petit village de l'ouest de l'Écosse, n'avais-je pas barbouillé une insolite fantasmagorie surréalistico-exotique intitulée « Nuit de Yokohama ». Bref, c'était à cause de cette estampe et à cause de bien des choses que j'ai décidé de faire une petite balade au port par lequel l'Ouest pénétra de façon très ignorante, très brutale, dans le doux pays de Yamato. Gare de Tokyo, le matin. Je vais au guichet. Yokohama made. Jusqu'à Yokohama. Machine. L'employé m'indique une machine à billets à droite de son guichet. J'introduis les 410 yens demandés, prends mon billet, l'agite en direction de l'employé. Ok, Captain. Quai numéro 7. Arrive en brinque-ballant un petit train bleu de banlieue. Bondé, bondé, bondé. Dans le wagon où je monte, beaucoup de personnes âgées. En fait, on dirait une excursion du troisième âge. Après quelques minutes, on procède à une distribution de bière et de saké. « Oh, saké ! Le vénérable saké !» s'écrie un vieil homme, tandis qu'une vieille dame sort très soigneusement un petit gâteau de son emballage et le mâche très très délicatement. « Shimbashi, Shinagawa, Shin Kawasaki !» Kawasaki. Kawasaki, n'était-ce pas le nom d'une estampe de Hiroshige, l'une des 53 étapes du Tokaido, eau bleue et un bac poussé à la gaffe? Ce matin, des cheminées d'usine qui vomissent une fumée blanche et grise, un petit crachin, des bâtiments de briques rouges et un fouillis de toit en zinc bleu. À Yokohama, je monte au bluff qui offre la meilleure vue sur la baie et erre dans le cimetière des étrangers parmi les tombes anglaises, américaines, russes, portugaises, hollandaises et allemandes. Sur la pierre d'une tombe, quelqu'un avait déposé in memoriam une boîte de pierre. C'était la tombe d'un soldat américain mort durant la guerre de Corée en 1957. Après cette petite promenade avec la mort sur le bluff, c'est une de mes vieilles habitudes, je ne loupe pas une occasion, je descends au port. Là, sur les eaux vertes, une flottille de bateaux pilotes du canal d'Uraga, un gros malabar rouge de la compagnie des chargeurs réunis et un bateau japonais, le Kuwana Maru. Je flâne à travers le parc de Yamashita, où a lieu un concours de peinture pour les écoliers. Le sujet de prédilection semble être la tour marine. Je marche un peu le long de la rivière Nakamuna. J'entre dans une petite boutique d'estampes dans Motomaki où j'achète une autre Geijinhei, estampe d'étrangers. Puis vais visiter le musée de la soie et des archives. Au musée de la soie, je regarde des photos de petites mignonnes japonaises des années 20, les robes à pois des années 30. Ma mère en portait une dans la seule photo que je possède d'elle jeune. Le new look de 1947 et les hot pant skirts, jupes à mi-cuisse de 1967. Je lis l'histoire de la route de la soie, ainsi nommée par le géographe allemand Ferdinand von Richthofen, et que parcourut Yuen Tsang, connu au Japon sous le nom de Sanzo Oshi, le héros du livre chinois Si Yuki, traduit par Arthur Wallet sous le titre de Monkey, singe. Cette longue, longue route, la route de la soie qui s'étendait sur 10 000 km depuis la Chine jusqu'au port de la Méditerranée en passant par de vastes étendues de sable fouettées par le vent et de collines désolées. Et puis, il y a la soie de Yokohama, les 100 millions de foulards de Yokohama exportés chaque année, et ses splendides pièces de tissu. Celle-ci, avec un motif de vague, celle-là, bleue, décorée d'un vol de cygnes sauvages. Aux archives, je me penche sur des cartes et des photos de chasse à la baleine et vois le Commodore Perry rencontrant le haut commissaire impérial à Yokohama. Je parcours les traités commerciaux et les règlements douaniers, consulte une page du dictionnaire japonais-français de Hepburn, imprimé à Shanghai en 1867. Un soir à Yokohama, marchant de lieu en lieu, d'objet en objet, lumière jaune, grande nuit de pluie, cœur de l'automne. Le soir du 2 septembre 1879, le bateau Vega jeta l'ancre au large de Yokohama. À bord se trouvait le savant et explorateur suédois Nordén Skjöld, qui venait de franchir le passage du Nord-Est reliant l'Atlantique au Pacifique en longeant les côtes de Russie et de Sibérie. Malgré quelques tempêtes, la dernière étape du voyage, depuis le détroit de Bering jusqu'à Yokohama, avait été relativement facile, surtout à partir du moment où le Vega, quittant les eaux nordiques, était entré dans le large flux du Kuroshio, le courant noir. À la clôture de la cérémonie officielle qui célébrait cet événement, le gouverneur fit offrir à Nordén Skjöld, par son secrétaire, un rouleau sur lequel on pouvait lire un haïku écrit de sa main. « Aussi loin que s'étend la mer, la lune d'automne répand sa lumière bénéfique. Aussi loin que s'étend la mer, la lune d'automne répand sa lumière bénéfique. » Assis dans un bar, à la lisière de Chinatown à Yokohama, en train de boire un whisky indéfinissable et de regarder tomber la pluie, je pensais au passage du Nord-Est. Je parle de celui de l'esprit. Combien de penseurs et de poètes le franchissent ? Quand j'ai repris le train pour Tokyo, il y avait un ciel rouge et de gros nuages de pluie au-dessus de Yokohama et une femme d'une trentaine d'années, l'air triste, beau visage, lisait dans la lumière jaune et rare du wagon un roman. Je suis parvenu à déchiffrer le titre « La Sumida ». Superbe musique, il s'agit d'un instrument chinois à cordes qui s'appelle le qin. Nous voilà arrivés à la fin de cette étape sur la route du nord profond qu'a parcouru Kenneth White sur les pas du grand poète de haïku Matsuo Basho et dont il a tiré ce récit de voyage intitulé « Les signes sauvages » publié aux éditions Le Mot et le Reste. Les éditions Le Mot et le Reste qui nous ont donné donc leur permission pour lire in extenso ce livre magnifique, Les signes sauvages, durant cet été. On se retrouve donc la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous serons toujours à Tokyo, dans un quartier qui a vraiment son importance dans l'histoire de l'art du Japon. Je ne vous en dis pas plus. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine sur les routes du Nord profond, sur la route des signes sauvages. Street on my own.
dark god wears his jacket of leather with a thousand demons of stones. And men are raised throughout electric beams. And everything's exactly as it seems. Now I'm gonna walk with the night, talk to the angels above. Yes, I'm gonna walk with the night, describe this phantasm of love. Phantom King is in command, and victories are lost in dreams, and everything's exactly as it seems. Now I'm gonna walk with the night, talk to the angels above. Yes, I'm gonna walk with the night, describe this phantasm of love.